Extrait du livre La conspiration des anges, volume 1, Les contrôleurs, tome 1, livre de Thomas Allen aux éditions Percée. Prologue. Il commençait à se détendre. Les yeux fermés, il se repliait sur lui-même et visitait son temple intérieur, l'intérieur de sa lointaine mémoire. Le psychiatre l'observait en essuyant les verres de sa paire de lunettes. Il lui parla doucement, comme on parle à un enfant apeuré après un mauvais rêve. Comment vous sentez-vous? Calme, j'ai l'impression de flotter. Vous voyez, les divans de psy méritent bien leur réputation. Que ressentez-vous maintenant? D'être au-dessus d'un grand gouffre au fond duquel séjourne un immense lac sans vie, profond et sombre. La régression parcourait à rebours l'existence de son patient. Le psychiatre devait remonter aux sources de son traumatisme. Il lui conseilla: Descendez cet espace vide et plongez dans cette eau calme. Elle vous protège sans vous empêcher de respirer. Vous y êtes? Oui, j'ai l'impression de nager. J'éprouve du plaisir. Il n'y a personne et cependant je ne me sens pas seul. Des regards bienveillants m'observent, mais je ne les vois pas. Le patient gigota sur le divan. Ses yeux s'ouvrirent, mais ce n'était pas le plafond de l'étroit cabinet de consultation qu'il scrutait. Ses lèvres remuèrent à nouveau, et il articula comme s'il s'adressait à un étranger comprenant mal sa langue. Un peu plus loin. Je vois une petite lumière. Elle clignote. Avez-vous envie de vous en approcher? Demanda le psychiatre. J'ai peur de ce que je vais y trouver, mais je dois y aller. Les regards me le disent. Alors, faites-le. L'homme sur le divan s'agita davantage, et ses yeux se fermèrent. Il progressa lentement vers la source lumineuse. Sa forme lui apparaissait familière sans pourtant la reconnaître. Maintenant qu'il était tout près d'elle, il l'identifia. C'est une fenêtre. On dirait une petite fenêtre qui brille à l'intérieur. Je suis donc à l'extérieur. Approchez votre visage et dites-moi ce que vous voyez, suggéra l'homme de l'art en repositionnant sa paire de lunettes sur l'arête de son nez busqué. Il n'écoutait pas vraiment son client, mais songeait à la délicieuse soirée qui l'attendait avec l'une de ses patientes troussée ici même dans son cabinet, le soir, sur ce divan qui en comportait encore quelques traces. Ce n'était pas très déontologique, il en convenait face à lui-même, et néanmoins l'irrésistible tentation l'avait happé goulûment dès les premiers signes de consentement, d'approbation, et enfin d'incitation à venir écarter des cuisses déjà offertes. Il se souvint de l'intense odeur musquée qui l'envahit dès le lent et délicat retrait de la fine dentelle recouvrant l'intime territoire. Son désir se remit à durcir pendant l'évocation qu'il chassa, par réflexe professionnel, pour revenir à celle de son patient du moment. Le patient nagea jusqu'à la fenêtre et y colla son visage en battant des bras pour maintenir un certain équilibre et stabiliser sa vision. Il n'avait aucune peine à respirer et pourtant il retint son souffle devant les personnes qui s'affairaient de l'autre côté. Des infirmières allaient et venaient dans une pièce blanche comme leur uniforme. Certaines plaçaient, en les cajolant, des bébés à l'intérieur de boîtes en plastique transparent d'où sortaient des tubes. D'autres préparaient des biberons. Ça braillait dans tous les sens. L'établissement devait être une maternité, et cette pièce une nurserie pour prématurés, à en juger par la petite taille et le faible poids des enfants qui s'y trouvaient. Les vêtements que portaient les infirmières avaient un côté rétro, peut-être à cause de leur coiffe qu'on ne voyait plus que dans les vieux films des années 1960. Il observa tout particulièrement l'une d'elles qui venait d'entrer en portant un bébé turbulent, régurgitant du lait sur son bavoir. Il en eut le souffle coupé, car, spontanément, il sut qu'il s'agissait de lui-même, peu de temps après sa naissance. « Mon Dieu, je n'arrive pas à le croire, docteur, mais je suis derrière la fenêtre, en nouveau-né. Quelle étrange sensation de se voir ainsi, dans les bras d'une étrangère. Il ne s'agit pas d'un souvenir ni d'une projection. C'est autre chose. » La lumière de la nurserie baissa. La fenêtre s'obscurcit et l'homme ne vit plus que le reflet de son visage. Les traits étaient flous et vieillis, différents de ceux qu'il observait chaque jour dans les miroirs que son regard croisait. Une autre fenêtre s'alluma tout près de lui. Il s'en approcha au prix d'un effort soutenu. L'eau lui sembla prendre la consistance de la mélasse, mais il parvint à atteindre le nouveau rectangle de lumière. À l'intérieur, il vit une jeune femme se démaquiller, face à son miroir, dans une salle de bain. Son visage, d'abord barbouillé de crème, se révéla peu à peu sous les caresses appliquées de ses longs doigts. « C'est ma mère, mais elle est jeune, si jeune. On dirait presque une adolescente. » Des larmes roulèrent sur les joues de l'homme comme accablé par une nostalgie qu'il ne pouvait connaître. À son tour, cette fenêtre s'éteignit progressivement, plongeant dans les ténèbres une scène qui se figea, une pause du temps qui défile à l'envers. D'autres petits espaces lumineux percèrent l'obscurité de l'immensité dans laquelle il avait plongé. Au milieu du fluide qui s'épaississait à chaque nouvelle brassée, il redoubla d'efforts pour passer au tableau suivant. Quand il se fut rapproché suffisamment près, il découvrit des personnages dans une situation qu'il ne réussit pas à interpréter immédiatement. Cela se passait à l'extérieur, par une fin d'après-midi, avec un soleil déclinant, presque rouge sang, prêt à basculer derrière l'horizon lointain. En avant-plan, il y avait des adultes, des femmes, difficiles à reconnaître, très maigres. Certaines pleuraient. À l'arrière, des enfants couraient avec peine vers un même objectif. Tous, les femmes et les enfants, portaient un pyjama rayé sale. Oh mon Dieu! Ce sont des prisonniers! C'est un camp! Vous savez, un de ces terribles camps de concentration où des êtres humains étaient exterminés en quantité industrielle. Au loin, il y a des cheminées qui rejettent une fumée noire. Je sens une odeur âcre, infecte, de la chair humaine qu'on brûle. Il y a des enfants qui courent, épuisés par la faim. Certains tombent et les autres leur marchent dessus sans les voir. Les enfants, qui parvenaient à rester debout, se pressaient vers un grillage en fil barbelé, d'où s'échappaient des cannes à pêche, au bout desquelles des morceaux de viande avariée étaient suspendus. Ils dansaient dans l'air en formant des arabesques exubérantes pour mieux exciter l'appétit de leurs petits estomacs tourmentés. Les cannes étaient maintenues, de l'autre côté du grillage, par des soldats allemands qui riaient, amusés par la fragile bousculade que provoquait leur jeu sadique. Mais quand la nourriture fut à portée de main des enfants, les cannes étaient brutalement soustraites à leur convoitise, ce qui entraînait des rires plus forts, presque des hurlements de joie des militaires en faction. Et si l'un des enfants parvenait à saisir un morceau de viande, aussitôt, l'un des gardiens lui brûlait la main avec sa cigarette. Il l'écrasait sur la peau fine déjà bien meurtrie, avec les cris d'encouragement de ses coreligionnaires. Mais l'enfant ne lâchait pas prise. Cette douleur-là lui était bien égale, supportable, insignifiante même, au regard des tourments que la faim exerçait sur son corps. Ses ravages l'avaient façonné en une bête ayant perdu l'usage de la parole, se contentant de grogner pour signifier son humeur. Alors il repartait avec sa prise, la protégeant d'un prédateur aussi affamé que lui, donnant coups et morsures à quiconque s'approchait. Dans un coin du camp, il s'accroupissait et, tel un animal, dévorait sa maigre pitance carnée, avariée. À distance, deux plus petits, moins forts, attendaient qu'il daigne en jeter une partie, moins consommable pour se ruer dessus. Mais aujourd'hui, les petits estomacs se nourraient davantage, car le petit fauve avait tout mangé. Il sut alors qu'il était cet enfant juif, mort de malnutrition et de maltraitance dans ce camp, sans joie, sans parents, sans dignité, avec soulagement de ne plus souffrir le calvaire dont il ignorait la cause, avant sa naissance. Et la fenêtre perdit de sa clarté, pour s'estomper dans le néant, noir et froid. Au prix d'une lutte de chaque instant, à bout de souffle, il arriva au terme de son pénible voyage, ne disposant de toute façon pas de ressources supplémentaires pour aller plus loin, tant la substance dans laquelle il baignait se densifiait en ralentissant, puis en figeant sa progression. La croisée suivante lui présenta un chevalier à la triste figure, vêtu d'une pelisse en lambeaux, recouvrant un bliot souillé et déchiré. Sa monture, aussi harassée que lui, n'avait plus fière allure et avançait d'un pas lourd dans la boue, sous une pluie battante. Ce chevalier, encore pourvu d'un vestige de camail, revenait d'une croisade sans armure, ni haubert, ni heaume, ni chausse de fer, ni lance, ni épée, pas même un couteau d'arme ou un poignard. Il était agrippé au cou du cheval qu'il montait sans selle, ni couverture de selle, sans mors, ni bride, ni harnais. Dépourvu de tout attribut associé à son noble rang, si ce n'est une partie de son blason brodé sur sa tunique aux couleurs des lavées, nul n'aurait pu reconnaître le seigneur de ces lieux, en Provence. Son cheval s'arrêta, plus par épuisement que par reconnaissance de cet endroit qui ne lui était pas familier, puisque né à Jérusalem 5 ans plus tôt. Et malgré le rideau de gouttes serrées qui l'inondait, perçut le massif rocheux et la bordure d'essences, composée de cyprès et d'oliviers, qui limitaient son domaine. Il dressa la tête, se renfrogna, glissa le long de sa monture et tomba à genoux en enfouissant son visage dans ses mains. Il pleura, sous la pluie, devant les ruines de son château, vestige d'une gloire passée que des assaillants avaient saccagée en massacrant les hommes d'armes, les paysans, sa cour, sa femme et ses enfants. Ce dieu impitoyable et exigeant pour lequel il s'était battu en terre lointaine lui avait tout pris. Il hurla en silence, sa langue lui ayant été arrachée au cours de sa captivité. Brusquement dépêtré, l'homme s'éloigna de la fenêtre lumineuse d'un bond fulgurant, le souffle coupé. Il ne pouvait en supporter davantage. La lumière baissa, tandis que d'autres, étincelantes, défilaient maintenant devant lui, comme les surfaces vitrées d'un train fou. Il haletait face au flot de souvenirs qui l'assaillait en images déformées, méconnaissables, effrayantes. Un gigantesque puzzle se construisait dans sa tête, mais les pièces ne s'ajustaient pas. Elles s'entrechoquaient avec la violence d'une tempête lui rapportant des messages indescriptibles et terribles. Son lointain passé, il le savait désormais, comportait des failles irréparables que son cerveau refusait de tolérer. Un lourd secret pesait sur sa conscience antérieure à sa naissance, et ce secret avait décidé de se révéler malgré ses réticences. Tôt ou tard, il s'illuminerait. Rien ne pourrait empêcher cette apocalypse. Son malaise s'amplifia, il hoqueta et sortit de ses vieux souvenirs en expulsant d'un puissant jet l'air accumulé dans ses poumons, les yeux hagards. Il allait parler, mais le psychiatre n'était plus dans son fauteuil. Il gisait sur le tapis, la gorge tranchée. Du sang rouge clair pulsait depuis l'artère en s'infiltrant dans les fines mailles du tissage au décor floral iranien. Le lieutenant de police, arrivé sur les lieux, se pencha au-dessus du corps. Il remarqua l'effroi peint sur le visage livide du psychiatre. Le sang avait séché par croûte sur la gorge et le tapis. Par la porte entrouverte de l'étroit cabinet, on pouvait voir le bureau d'accueil sur lequel la secrétaire était affalée, la gorge également tranchée. Son regard, tourné en direction de son patron, signifiait le même effroi. Le patient, toujours choqué, répondait aux questions d'un enquêteur en uniforme qui s'appliquait à consigner sur un carnet les réponses avec lenteur.